Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'équipe de France de football, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. À l'issue d'une finale haletante, les hommes de Thierry Henry ont laissé filer la médaille d'or, battue 3-5 par l'Espagne. En football, les dernières images d'une finale finissent toujours par se ressembler. La liesse collective côtoie la détresse sans jamais se faire face. Les vainqueurs ne savent pas où courir et n'en finissent pas de se jeter dans les bras les uns des autres. À quelques mètres, les vaincus plongent leur visage dans leurs mains pour cacher leurs larmes. Vendredi 9 août, une vague espagnole partie du banc de touche a déferlé sur la pelouse du Parc des Princes. Le gardien, Arnaud Tenas, venait d'offrir le but du 5-3 à Sergio Camello, celui du titre olympique. Un dernier ballon, une passe décisive à la main, un geste presque anachronique à une époque où les gardiens ne jurent que par la relance au pied. Les regrets seront-ils éternels au moment de rembobiner cette finale impossible à résumer, sans queue ni tête, sans cette maîtrise chère aux entraîneurs d'aujourd'hui? Ces bleus-là ne contrôlent rien, ne carburent qu'à l'envie, à l'inspiration parfois, à la folie tout le temps. Thierry Henry ne les a pas surnommés les fous pour rien. Parce qu'il fallait être fou pour revenir de 1-3 face à une équipe capable de vous surclasser en l'espace de 10 minutes au cours de la première période. Les Espagnols avaient inscrit 2 buts qui récompensaient des attaques placées, inscrits par Fermín López à la 18e et 25e minute pour rappeler que le football est quand même une affaire sérieuse qui se construit avec méthode et patience avant un coup franc lumineux d'Alex Baena à la 28e minute. Dans cette finale, la France a bien mené 7 minutes au début du match avec la complicité de Tenas sur une frappe pourtant sans danger d'Enzo Milho. 7 minutes pour promettre à l'habituel gardien remplaçant du Paris Saint-Germain une postérité comparable à celle de Luis Arconada, un nom devenu synonyme de boulette depuis que le ballon envoyé par Michel Platini lui glissa sous les bras en finale de l'Euro 1984, déjà au Parc des Princes. Le Basque avait été immense dans ce tournoi avant ce moment fatidique. Comme la défense française fut solide et hermétique, un seul but encaissé avant ce trou d'air de 10 minutes. L'affaire semblait pliée et l'on devinait déjà les Espagnols proposer l'introduction au programme olympique de leur sport préféré, la passe à 10 pour geler le ballon et faire tourner l'adversaire en bourrique. Il n'en fut rien. À la gestion de petits experts comptables de la Rora, les Français opposaient leur football désordonné mais généreux en seconde période. À force de pousser, la récompense est arrivée. Magnès Aliouch déviait victorieusement un coup franc de Micaela Olise à la 79e minute. Dans les arrêts de jeu, l'arbitre brésilien Ramon Abati Abel devenait très populaire pour avoir accordé aux Français un pénalty après consultation des vidéos. Jean-Philippe Mateta le transformait pour envoyer les deux équipes dans les prolongations. Les fous avaient pris le contrôle de cette finale, mais la rationalité allait se rappeler à eux. En début de prolongation, Sergio Camello trompait Guillaume Restes d'un petit ballon piqué, le même genre de caresse que celle de Bruno Bellone pour le second but en 1984 lors de l'Euro. La meilleure équipe du tournoi filait vers le titre olympique, mais le public du parc voulait croire à un dernier miracle. En vain. Peu importe la couleur du métal, Thierry Henry retenait un sentiment de fierté, celui du chemin parcouru par son équipe gagnée par la magie des Jeux, mais aussi celui d'une France réconciliée avec elle-même, du moins le temps d'une quinzaine. Très bien de voir des footballeurs, souvent présentés comme de jeunes hommes hors sol au salaire indécent, se prendre à l'histoire des Jeux. En équipe de France, Thierry Henry a toujours habité au numéro 12. Un numéro fétiche, avec, à l'origine, l'envie d'imiter son idole d'enfance, Marco van Basten. En 1988, le Néerlandais porte boule numéro 12 lors de la victoire des Pays-Bas au championnat d'Europe. Du triple ballon d'or, l'ancien attaquant d'Arsenal prend la gestuelle, l'élégance et le sens du but de Marco van Basten, qui admet par contre une seconde carrière d'entraîneur frustrante et ratée. À 46 ans, le sélectionneur de l'équipe de France olympique espère voir sa carrière d'entraîneur enfin décoller grâce au tournoi olympique. Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, continue à voir pour son ancien adjoint à l'équipe de Belgique un destin similaire à ceux de deux ex-grands joueurs, Pep Guardiola et Johan Cruyff. Johan Cruyff est l'homme de deux révolutions, celle du football total, crampon au pied dans les années 1970, avant de casser de nouveau les codes à la tête du FC Barcelone, deux décennies plus tard, avec son éternel imperméable beige sur le dos et ce jeu d'attaque fait de passes courtes. Mais Johan Cruyff tient plutôt de l'exception, quand la règle offre les carrières d'entraîneurs décevantes, voire ratées, des Diego Maradona, Lothar Matthäus, Jean-Pierre Papin, Ruud Gullit ou Hristo Stoichkov. Une liste non exhaustive. Les génies seraient-ils incapables de transmettre? Depuis, Zinedine Zidane est devenu l'autre glorieuse exception avec ses trois Ligues des champions d'affilée remportées avec le Real de Madrid. Mais Thierry Henry, ce n'est pas Zizou. Toute sa carrière, Thierry Henry a été un soliste assumé et non ce génie timide au cœur du jeu. De l'US Palaiseau à Nessone, à Arsenal, en passant par les Bleus, il a été ce buteur implacable, porté par une impitoyable exigence envers lui-même, celle transmise par un père éternel insatisfait. Henry a longtemps traîné l'image d'un joueur autocentré, le genre capable de s'inviter à l'Élysée fin juin 2010 pour raconter à Nicolas Sarkozy sa version du fiasco du mondial sud-africain. Depuis son arrivée à la tête de l'équipe de France Espoir et par extension olympique en août 2023, il livre sa version personnelle du « j'ai changé » du candidat Sarkozy en 2007. Henry porte un regard lucide sur sa courte expérience sur le banc de son club formateur, l'AS Monaco. Après tout, un certain Didier Deschamps avait vécu en 2001 des débuts d'entraîneur très compliqués en principauté. Et on connaît la suite. Consultant star pour la chaîne Sky Sport au Royaume-Uni, entre 2014 et 2018, Thierry Henry n'avait pas mesuré à quel point l'ombre de sa première carrière planait encore. Avec la Belgique, Henry endosse par intermittence le rôle d'adjoint de conseiller des attaquants avec plus de réussite que lors de son passage à Monaco. L'avant-centre des Diables Rouges, Romelu Lukaku, plaide même pour sa candidature afin de remplacer Roberto Martinez à l'été 2021. Mais pour devenir un grand entraîneur quand on a été un grand joueur, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de brûler les étapes. Il vaut mieux commettre ses premières erreurs avec des jeunes. À Monaco, il n'était pas prêt. Alors Thierry Henry s'envole pour Montréal et le championnat nord-américain. Mais sa venue coïncide avec la crise sanitaire. Entre des stades vides et l'éloignement avec ses enfants restés à Londres, Thierry Henry broie du noir et connaît même un épisode dépressif. Entre deux piges pour la Belgique, le Français retrouve son autre métier, celui de consultant pour la chaîne CBS Sport. En France, il devient la tête de gondole d'Amazon, alors diffuseur de la Ligue 1. À sa connaissance encyclopédique de son sport, Thierry Henry ajoute un sens de l'humour ravageur. L'expérience lui permet de se reconnecter avec le public, d'offrir un autre aspect de sa personnalité. Quand Philippe Diallo lui propose de remplacer Sylvain Ripoll, le président de la Fédération française de football voit dans le nom d'Henry un sésame auprès des clubs pour libérer leurs joueurs pendant ce tournoi disputé en dehors du calendrier de la Fédération internationale de football. Le champion du monde 1998 a peut-être enchaîné, mais sa présence suffit à remplir les stades lors des matchs amicaux et même à permettre de trouver un diffuseur en clair, la chaîne L'Équipe, pour les Bleuets. Les Jeux olympiques sont une compétition unique. Deux grands joueurs l'ont déjà remporté, comme Messi et Neymar. Dans un élan patriotique, Kylian Mbappé a longtemps voulu imiter ses deux anciens coéquipiers au Paris Saint-Germain. Mais en football, les clubs ont toujours le dernier mot. Et même le lobby d'Emmanuel Macron s'est révélé inefficace pour inciter le Real de Madrid à libérer sa très chère recrue estivale. Un homme l'avait bien compris avant le président de la République, c'était Thierry Henry. À sa prise de fonction en août 2023, Le champion du monde 1998 connaissait pourtant les règles du jeu. Les Jeux Olympiques n'entrent pas dans les dates de la Fédération internationale du football et les clubs ont tout pouvoir pour bloquer leurs joueurs. En 2021, l'entraîneur Sylvain Ripoll avait eu toutes les peines du monde à mettre 21 joueurs dans l'avion pour Tokyo. Sans surprise, les Bleus avaient pris le vol retour dès la fin du premier tour. Côté joueurs, quelques-uns se sont imposés. Michael Olise, né à Londres d'une mère franco-algérienne et d'un père anglo-nigérian, il a choisi la France parmi ses 4 nationalités sportives possibles. Le gaucher a brillé lors de la préparation, avec 3 buts et une passe décisive. Et son nouveau club, le Bayern de Munich, le laisse participer aux Jeux Olympiques. Alexandre Lacazette, lui, renoue le fil d'une histoire très contrariée avec le maillot bleu. Depuis 2017, Alexandre Lacazette est l'éternel oublié des listes de Didier Deschamps en équipe de France. Thierry Henry a sauté sur l'occasion pour convoquer le Lyonnais, auteur de 22 buts cette saison. À 33 ans, Lacazette n'avait pas spécialement les jeux en tête, mais a fini par se laisser convaincre. Malgré les absents, la France a un incroyable talent en attaque, avec la technique de notre Rodanien, Rayan Cherki, le sens du dribble du René Désiré Doué, sans oublier la puissance de l'avançant de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Côté féminin, l'équipe de France a été battue en quart de finale, 1-0, dans un match à sa portée, par le Brésil, au même stade que l'année dernière en Australie en Coupe du Monde. Les Brésiliennes, qui perdront en finale 1-0 contre les États-Unis, l'Allemagne finissant 3e en battant 1-0 l'Espagne, champion du monde en titre. Le sélectionneur de l'équipe féminine, Hervé Renard, quitte donc la sélection sans avoir réussi ses 2 missions. Remporter une première médaille olympique et se qualifier pour les demi-finales d'une Coupe du Monde. Les Françaises ont cumulé les occasions, mais ont été trop inefficaces contre les Brésiliennes. Pénalty raté, bien détourné par la gardienne brésilienne, barre transversale trouvée par Mbok, beaucoup d'occasions ratées. La dernière fois, le parcours des Bleus s'était arrêté brutalement en quart de finale, après leur élimination par les États-Unis. En 2012, à Londres, pour leur première participation au tournoi, elles avaient perdu contre le Canada lors du match pour la 3e place.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.